France Culture.
Et les midis de culture, c'est reparti. Bienvenue à toutes et à tous et c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Comment rendre l'architecture perméable aux impératifs écologiques? Les cabinets d'architectes réfléchissent à cette question, proposent des réponses différentes, mais tous s'accordent à dire que l'on ne peut plus construire sans penser le bâtiment dans le futur. Choisir la réhabilitation plutôt que la destruction, c'est le dossier du Point Culture du jour. Anne Démian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, membre de l'Académie des Beaux-Arts et vous venez de faire paraître chez Materia Nebula et Éditions un ouvrage qui revient sur votre réhabilitation des bains de Nancy. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, les architectes sont assez concernés par les réflexions environnementales et donc par la capacité des bâtiments qu'ils construisent à être réhabilités? Est-ce que c'est une notion qui est au cœur des préoccupations des architectes aujourd'hui?
Oui, beaucoup d'architectes se sont emparés en fait de cette problématique parce qu'on ne peut plus continuer à imaginer l'évolution des villes et ses usages par le classique et récurrent processus de déconstruction et reconstruction qui pose quand même aujourd'hui le double problème des émissions de carbone et de la pénurie des matériaux. Donc c'est vrai que considérer en fait à la fois l'ensemble des bâtiments donc comme une sorte de possibilité d'interroger leur capacité de transformation avant de les déconstruire, c'est absolument fondamental. Et encore plus quand il s'agit d'un bâtiment patrimonial, parce qu'il s'agit là de réinterroger son usage.
Mais ce qui veut dire qu'au moment même où l'architecte pense un projet, le dessine, il faut qu'il pense à sa future réhabilitation?
Alors moi là-dessus, je suis assez en pointe sur le sujet, c'est que je considère qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à faire des bâtiments mono-usage. Et que notamment dans tout ce qui concerne en fait l'architecture domestique, c'est-à-dire qui concerne les bureaux, les logements, les résidences étudiants, les résidences services, les hôtels, on doit considérer la possibilité de sa transformation dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment à nouveau associer usage et beauté dans la durée, c'est-à-dire que certes, au début de la construction d'un bâtiment, il y a un usage, mais il faut pouvoir considérer que le bâtiment il va se transformer parce qu'il aura été pensé beau et pour longtemps. Et moi, je demande, notamment au niveau du permis de construire, que soit demandé, lors d'un permis de construire, la démonstration de la capacité d'un bâtiment à évoluer. Et en général, c'est lié à la hauteur en fait, des étages. Parce qu'on a aujourd'hui fait une différenciation entre la hauteur des logements et la hauteur des bureaux, alors qu'en réalité, il y a un droit à la lumière pour tous. Il n'y a pas encore de réglementation à l'échelle nationale, mais de proche en proche, je pense qu'il y a quand même une sorte de prise de conscience, mais qui est encore trop lente.
Sur cette question de l'adaptabilité là que vous évoquez, vous avez conçu notamment un projet baptisé les Dunes à Val-de-Fontenay. Si on prend cet exemple-là concret, en quoi ce projet-là est-il réversible? Je crois que c'est la Société Générale qui y est aujourd'hui.
Oui, c'est la Société Générale. Alors, ce bâtiment, il visait aussi à traduire aussi une autre situation, notamment le monopole en fait de l'idée d'une pratique des bureaux qui serait, on va dire, dédiée à une sorte de pratique extrêmement réglée sur 8 heures. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'en fait, le mode de travail a beaucoup changé et que pour donner en fait une adéquation entre un bâtiment, un nouveau lieu de travail en corrélation avec les nouvelles pratiques, je l'ai pensé comme un bâtiment paysage plutôt que comme un bâtiment. C'est-à-dire que c'est un morceau de ville ouvert en fait sur le paysage et je profite en fait de cette échelle, c'était un projet énorme, c'était 100 000 m2, mais vous imaginez un système collinaire dans lequel entre ces collines il y a des paysages qui permettent aux utilisateurs des bureaux d'avoir le sentiment d'être toujours dans un rapport compatible avec des espaces paysagers extérieurs. Donc on est moins dans cette idée d'enfermement. Donc là c'était une façon de remettre en cause un mode de pratique des bureaux qui doit plus se rapprocher en fait justement de celle du logement, c'est-à-dire se sentir même au bureau un peu comme dans un espace spacifié et en lien avec une nature.
Quand vous décrivez ce bâtiment-là, ou même vous avez prononcé le mot, est-ce que la beauté est un critère pour vous? Parfois, on entend aujourd'hui les architectes dire que c'est plus le critère primordial, mais quand je vous écoute ou quand j'ai regardé le livre que vous venez de faire paraître sur les bains de Nancy, où là, vous parlez de bâtiments paysages, pour vous, elle se place où, la beauté, quand vous construisez?
Justement, je pense qu'on ne peut plus dissocier la question de la beauté avec la façon de réinterroger l'usage. C'est-à-dire que Notamment Nancy, c'est un bâtiment dont on avait perdu l'usage. Donc il s'agit de se dire comment on renouvelle en fait le regard qu'on porte sur ce bâtiment, qui est un très beau bâtiment néoclassique.
Ce sont des termes, hein ?
Ce sont des termes, ouais, qui a été construit à une période extrêmement florissante en fait de Nancy, qui était à l'époque vraiment le cœur en fait de l'art nouveau. Et c'est un bâtiment qui est vraiment élégant, qui bénéficiait de cette diversité des arts décoratifs florissants à Nancy, qui a suivi cette période très intense de Nancy. Donc c'était un très beau bâtiment. Et puis est arrivée la guerre de 14, et donc l'usage a été perdu avec la Première Guerre mondiale, parce qu'il a été abîmé, parce que les usages ont changé, et c'est un bâtiment qui a été comme une belle endormie pendant 100 ans. Ce que j'ai fait, c'était de reconsidérer l'usage de ce bâtiment et de l'adapter aux besoins contemporains, notamment sur les soins, la santé, le sport, le loisir. Et le fait de considérer ce bâtiment, qui est un bâtiment patrimonial, en venant additionner un bâtiment avec une écriture contemporaine, je viens, comment dire, révéler en fait cette beauté qu'avait perdu justement de son usage, c'est-à-dire que de lui redonner un sens par rapport son rapport la dimension métaphysique de l'eau, le rapport avec le fait qu'il était bordé par un très beau parc qui s'appelle le parc Sainte-Marie, qui est un parc qui fait à peu près 70 000 mètres carrés. Et donc j'ai permis d'ouvrir en fait le bâtiment sur ce site, et donc j'ai assujetti le nouveau rapport en fait qu'on a au rapport au corps, parce qu'à l'époque, quand il a été pensé, c'était un bâtiment extrêmement introverti. Et je n'ai eu de cesse que d'ouvrir en fait ce bâtiment patrimonial sur l'extérieur et de révéler son rapport avec le parc qui était à ses côtés mais qu'on ne voyait pas.
Oui, en fait, c'est le même travail finalement que vous parliez des dunes à Val-de-Fontenay ou de ces bains à Nancy. Votre travail consiste justement en cette ouverture vers l'extérieur et retrouver l'usage qui lui rendra sa beauté.
Exactement, absolument. Et je pense que la question on ne peut pas dissocier aujourd'hui la question de l'évolutivité et de la possibilité de penser la ville sur la ville sans redonner, s'interroger en fait sur les nouveaux usages, sur la mobilité, sur la possibilité d'éviter de reproduire les erreurs du passé et de considérer comme on l'a pensé pendant trop de décennies, l'architecture comme une architecture jetable. En fait, vous savez, ces architectures Kleenex, c'est-à-dire qu'au bout de 10-15 ans, le produit est équilibré financièrement, donc s'il est utilisé ou pas, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je pense que l'idée de construire un bâtiment dont l'usage induit une certaine beauté et induit la possibilité de le faire évoluer dans le temps va faire qu'on va créer une désirabilité du bâtiment dans la durée et créer comme ça la possibilité qu'on puisse réconcilier en fait les habitants avec l'architecture contemporaine. C'est-à-dire créer toujours ce lien entre une architecture qui est pensée dans sa capacité à s'adapter mais qui fait le lien avec l'architecture patrimoniale quand c'est nécessaire, et qu'elle-même, elle puisse créer le patrimoine de demain.
Eh bien, merci beaucoup, Anne Démian.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, d'anciens employés de l'agence d'architecture de Jean Nouvel face à la justice.
Oui, c'est ce que révèle le journal Libération, en cause de très nombreux détournements de fonds qui s'étalent sur plusieurs décennies pour un montant total évalué à environ 25 millions d'euros. L'enquête révèle un système de fausses factures et de prestations fictives qui auraient profité à plusieurs salariés et actionnaires de l'entreprise, mais aussi à l'architecte lui-même. On apprend ainsi que Jean Nouvel aurait eu pour habitude de payer avec l'argent de son entreprise des frais personnels à hauteur de plusieurs millions d'euros. Le journal rappelle cependant que les indices de sa culpabilité ne sont pas suffisamment concordants pour qu'il soit renvoyé devant les tribunaux, à l'inverse de certains employés de son agence. Une affaire qui met à mal l'image de Jean Nouvel alors qu'il doit livrer d'ici quelques mois le bâtiment de la nouvelle Fondation Cartier à Paris.
Et pour finir, Marie, l'entreprise Technicolor se dirige vers la faillite.
Créée en 1915 et considérée depuis comme l'un des leaders dans le domaine des effets spéciaux, le groupe a participé à la réalisation de nombreux chefs-d'œuvre du 7e art, mais malgré des projets conséquents, le groupe est placé en redressement judiciaire en France et subit une procédure de faillite au Royaume-Uni. En cause, le Covid, puis la grève des scénaristes à Hollywood qui ont fait chuter le carnet de commandes, mais aussi la mauvaise santé financière de l'entreprise fortement endettée depuis le début des années 2000. À terme, ce sont plus de 10 000 salariés de Technicolor qui risquent ainsi de perdre leur emploi.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h passé de 30 secondes sur France Culture.